Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire sanglante de Michel Fourniret. Accompagné, épaulé par sa femme Monique Olivier, il a constitué avec elle un couple diabolique de serial killers. Un phénomène très rare dans l'histoire judiciaire française. À 73 ans, Michel Fourniret purge aujourd'hui sa peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il finira très probablement ses jours derrière les barreaux. Il se décrit lui-même comme un être mauvais et dénué de tout sentiment humain. Je le cite. En parcourant son histoire, on ne peut être que d'accord avec lui. Ce qui frappe chez cet homme qui a été condamné pour 7 meurtres et de nombreuses agressions, c'est son absence totale de remords. Il chasse les jeunes filles qui l'obsèdent comme on chasserait du gibier. Il les piège, il les broie comme un prédateur, sans aucune émotion apparente. Elles ont pour prénom Isabelle, Fabienne, Jeanne-Marie, Elisabeth, Natacha, Céline, Manonia. 7 jeunes filles de 12 à 22 ans, et peut-être d'autres encore, on ne sait pas. Lors de son procès à Charleville-Mézières en 2008, Fourniret va continuer à être odieux, oui, et tenter d'imposer sa loi. Comme il n'a rien à perdre et qu'il sait que la perpétuité est au bout du chemin, il insulte les avocats, se moque des juges, joue de sa perversité. Quant à ses larmes, il les offre à sa fille et à la fille d'un ami, jamais aux victimes. Le problème, c'est que des individus toxiques, comme Michel Fourniret, poussent à rendre une justice d'exception, à sortir des clous. C'est une épreuve, tant morale que judiciaire. Notre invité aujourd'hui, Olipori Santoro. Journaliste, il vient d'écrire un livre intitulé « Le fils de l'ogre » aux éditions Max Milo, livre dans lequel il reprend l'enquête sur Fourniret et sa femme à travers les révélations inédites de Selim, leur fils. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Thierry Leclerc, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le 26 juin 2003, Michel Fourniret rôde à bord de sa fourgonnette aux alentours de Namur, en Belgique. Il repère une adolescente de 13 ans à qui il demande le chemin de l'école. La jeune fille lui montre la direction, mais refuse de monter dans le véhicule. « Ce n'est pas bien de ne pas faire confiance aux gens », lui lance Fourniret. Marie Ascension, la fillette, hésite, puis, voyant l'air contrarié du chauffeur, finalement elle monte dans la camionnette pour lui rendre service. Mais Fourniret la pousse aussitôt au fond de l'estafette et démarre en trombe. Le scénario de l'horreur est enclenché. Heureusement, à 10 km du lieu de l'enlèvement, le véhicule s'arrête à un carrefour. Marie a la présence d'esprit d'ouvrir la porte arrière et réussit à s'échapper. Une femme en voiture passe par là et recueille l'adolescente, choquée. On le serait à moi. Pourtant, Marie n'en a pas encore terminé. Quelques minutes plus tard, la jeune rescapée aperçoit la fourgonnette qui revient. L'homme a sans doute fait demi-tour pour récupérer sa proie. Heureusement, là encore, la conductrice a la présence d'esprit de relever le numéro de l'estafette. Fourniret s'est fait piéger. La camionnette est au nom de Monique Olivier, la femme de Fourniret. Des policiers belges n'ont pas de mal à identifier l'auteur de l'enlèvement et à l'arrêter chez lui en Belgique, tout près de la frontière française. La justice belge n'a jamais entendu parler de cet individu qu'on présente dans les médias comme un homme ordinaire, plus ou moins en bon terme avec ses voisins, comme la majorité des assassins.
Michel Fourniret est un forestier français de 61 ans, présenté comme un bon père de famille. Toute la journée, sa maison a été fouillée par la police pour vérifier s'il n'y avait pas de cash. Dans son voisinage, cette nouvelle a provoqué des réactions mitigées.
Il n'a jamais eu un geste déplacé envers moi, jamais rien du tout, ni une remarque, ni rien.
Il y a eu beaucoup d'ennuis avec tout le monde, alors il en veut à tout le monde.
En prison, Fourniret ne parle pas. Il déclare juste qu'il n'avait pas l'intention de violer la petite Marie. Mais en poursuivant leurs investigations, les policiers belges découvrent, grâce à leurs confrères français, les antécédents de ce fameux forestier des Ardennes. Il a déjà été condamné à 7 ans de prison par la cour d'appel de l'Essonne pour plusieurs tentatives d'enlèvement et agression. C'était en 1987. 4 ans plus tard, il a été condamné à 15 mois de prison pour vol et violence. Comme Fourniret ne veut pas parler, les enquêteurs se concentrent sur sa femme, Monique Olivier, qui, elle, va peut-être en dire davantage. Elle est en liberté, mais les enquêteurs ne la lâchent pas. Chaque semaine, ils l'interrogent. Ils vont même jusqu'à poser des micros dans le parloir de la prison quand elle rend visite à son mari. Méthode légale en Belgique, mais strictement interdite en France. Pourtant, la récolte est maigre. Il faut dire que le couple a organisé sa stratégie de défense, genre « s'il te dit ceci, tu réponds cela ». Les policiers belges ne savent pas grand-chose de Fourniret, mais ils sentent bien qu'ils tiennent là un gros client. Alors en un an, le couple va passer pas moins de 230 fois à l'interrogatoire et l'abnégation des policiers finit par payer. Alors que Fourniret est sur le point d'être relâché, l'incroyable se produit. Monique Olivier, qui a peur sans doute de payer pour certains crimes qu'elle n'a pas commis, se met à parler. Oui, son mari s'intéresse aux jeunes filles et oui, il va jusqu'à les tuer. Ah bon ? Et la voilà qui cite une série impressionnante de prénoms. Magnana, la petite fille de 12 ans qui a disparu à Namur en 1989. Jeanne-Marie, la même année. Et puis aussi une certaine Farida. Et puis Elisabeth et Natacha, Fabienne, énorme. Les policiers sont tellement abasourdis qu'ils se demandent si Monique Olivier n'affabule pas. Quelques jours plus tard, et après les aveux de son épouse, Fourniret craque à son tour.
C'est peut-être le visage d'un nouveau tueur en série que la Belgique vient de découvrir aujourd'hui. Michel Fourniret, 62 ans, un Français arrêté il y a tout juste un an après l'enlèvement raté d'une fillette. Un délinquant sexuel déjà condamné, dénoncé cette semaine par sa femme, elle l'accuse de 9 meurtres, il en reconnaît 6 pour l'instant. Prudente, la justice belge organisait aujourd'hui une conférence de presse. Beaucoup d'éléments restent à vérifier, mais le profil du prévenu semble établi.
Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le mobile est d'ordre sexuel. Donc c'est une personne qui déclare elle-même qu'elle va à la chasse, qu'elle essaye de trouver des jeunes filles vierges, c'est un peu cela, son fantasme, et qu'après un jour, deux jours, eh bien, il ne sait plus qu'en faire, et à ce moment-là, eh bien, il les tue, il les étrangle généralement, et il les élimine en les enterrant.
Policiers belges et français collaborent de plus en plus activement. Désormais, il apparaît que Fourniret, ce délinquant sexuel, a longtemps sévi des deux côtés de la frontière. Peut-être pour brouiller les pistes. En tout cas, l'une de ses anciennes résidences, à Donchéry, dans les Ardennes françaises, intéresse au plus haut point les enquêteurs. Tout de même, c'est bizarre. C'est quoi ce petit château? Une sorte de manoir qui était la propriété du couple? Quand on sait que Fourniret et Olivier ont vécu à d'autres moments dans des maisons très modestes, voire des bâtiments agricoles, on se pose des questions. En tout cas, c'est là, dans le vaste domaine boisé de ce château du Sautou, que Fourniret aurait enseveli, dit-il, deux de ses victimes, Jeanne-Marie et Elisabeth. Alors branle-bas de combat, de plus en plus présente sur cette affaire de serial killer qui rappelle singulièrement l'affaire du trou, la presse est tenue à l'écart. L'hélicoptère de la gendarmerie, en revanche, survole le château.
Mais Jean-Chef, oui c'est le major l'appareil là. Vous prévenez le maire de Donchery. Vous prévenez le maire de Donchery, vous entendez? Vous prévenez le maire de Donchery que si les ossements sont découverts, il faut qu'il soit présent.
Et les fouilles commencent, visiblement sans résultat.
C'est vêtu d'un gilet pare-balles que Michel Fourniret guide les fouilles à la recherche de deux corps enterrés il y a plus de 15 ans. Selon les aveux des Fourniret, Elisabeth Brichet serait ensevelie ici dans une couverture à l'arrière du château. Pour la localiser, le forestier désigne une surface d'environ 100 mètres carrés.
Il est peu loquace, mais il s'exprime avec beaucoup de calme et de sang-froid, sans émotion apparente. Il a utilisé, dit-il, des tractopelles, ce qui veut dire la possibilité d'un enfouissement aux alentours d'un mètre de profondeur, éventuellement.
Fourniret a fait des dessins très précis. Il guide les enquêteurs, leur dit de creuser. Rien. Pendant des heures et des heures, la pelleteuse retourne le parc, en vain. Les policiers finissent par penser que leur homme les mène en bateau. Mais vers 18h, à 3 mètres de profondeur, la pelle de l'engin dégage un bout d'anorak mauve pâle, celui que portait Elisabeth au moment de sa mort. Et le corps est dégagé. Quand la petite a été enlevée de l'autre côté de la frontière, elle avait 12 ans, des yeux bleus et de longs cheveux blonds. Dans la foulée, l'autre cadavre est retrouvé, celui de Jeanne-Marie, 22 ans. On aperçoit encore l'adhésif qui couvrait la bouche de la victime. L'enquête vient de faire un pas de géant. Fourniret n'avoue pas tous les meurtres dont l'accuse sa femme, mais il se met à parler. Il donne des détails, des tonnes de détails, sur la façon dont il a traqué ses jeunes victimes. Il raconte comment il a parfois attendu des heures devant une école ou une médiathèque pour repérer, finalement, capturer ses proies. Il appelle ça sa chasse aux vierges. Et il est maintenant intarissable quand il explique comment il a séquestré, violé, puis étranglé ses victimes, le psychopathe accompli. C'est moins de 3 mois après sa sortie de Fleury-Mérogis en décembre 1987 que Michel Fourniret commet son premier enlèvement et son premier meurtre avec la complicité de sa femme. À cette époque, le couple habite dans Lyon. La jeune victime de 17 ans, Isabelle Laville, disparaît alors qu'elle sortait du collège. Tout le département est secoué par ce drame. Les footballeurs d'Auxerre et leur entraîneur Giroud en tête se mobilisent dans les médias. Mais l'enquête policière, qui ne dure que 6 semaines, n'est pas à la hauteur. La justice non plus d'ailleurs. Le parquet classe l'affaire. Et le serial killer passe entre les mailles du filet. Puis le couple déménage dans les Ardennes et ça recommence. Meurtre de Farida, meurtre de Fabienne. Ça n'empêche pas les Fourniret d'avoir leur premier enfant, le petit Selim. Michel, lui, a déjà été père 4 fois. Et Monique a déjà 2 garçons d'une autre union. Au début de l'année 2006, 2 ans et demi après l'arrestation du couple, les policiers belges ont abattu un énorme travail. Et comme les ramifications en France s'avèrent de plus en plus nombreuses, le criminel et sa femme sont extradés. Le 9 janvier, Michel Fourniret est remis par la police belge aux autorités françaises.
Il n'aura fallu que quelques secondes au fourgon cellulaire pour s'engouffrer dans la maison d'arrêt. Désormais, c'est en France, à Châlons en Champagne, qu'est incarcéré Michel Fourniret. Extradé ce matin de sa prison belge de Forêt, c'est ici, au poste frontière ardennais de Guédossu, qu'il a été remis aux autorités françaises. De là, il a été conduit à Charleville-Mézières, où il a été entendu pendant près de 4 heures par les juges d'instruction chargés de son dossier. Ceux-ci lui ont notifié sa mise en examen dans 10 affaires criminelles, 6 qui se seraient déroulées en France et 4 en Belgique. Ils lui ont par ailleurs signifié sa mise en détention provisoire d'ici un procès dont on ne connaît pas encore la date, mais qui pourrait se dérouler avant la fin de l'année.
Au fil des interrogatoires, les enquêteurs français découvrent la personnalité effrayante de cet homme qui, à la différence d'autres tueurs en série comme Guy Georges, Patrice Allègre ou Francis Holm, n'a pas le profil d'un marginal. Michel Fourniret a toujours été socialement plutôt intégré. Il n'a jamais été forestier, comme il l'a dit au début aux inspecteurs, mais il a exercé plusieurs autres métiers, fraiseur, maçon, menuisier.
Michel Fourniret savait jouer et ruser avec son apparence. Aujourd'hui, il se révèle être un personnage beaucoup plus complexe que la simple image de bûcheron un peu rustre que l'on pouvait avoir de lui. Gérard et Jocelyne Cadet sont peut-être les seuls à l'avoir bien connu. Pendant plus de 3 ans, ils ont été très proches au point d'être choisis comme témoins de son mariage. Aujourd'hui, ils ont le sentiment d'avoir été manipulés.
Il n'y a aucun détail qui nous a fait soupçonner quoi que ce soit. Rien du tout. Au contraire, c'était même un gars qui dégageait une certaine intelligence, qui dégageait un certain caractère. C'était un gars qui était propre, toujours bien habillé, courageux, bosseur. Jamais on n'aurait pu penser à un truc pareil. Jamais, jamais, jamais.
Jamais, car au premier abord, Michel Fourniret ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde. Un homme réservé, mais plutôt sympathique au physique, qui ne laissait rien transparaître. Dans le village de Sarthe-Custine, où il a habité jusqu'à son arrestation il y a 1 an, on se souvient d'un voisin intelligent, au langage soigné et surtout très besogneux.
Il parlait un très beau français, un français très, très, très châtié. Nous l'avons vu travailler, très travailleur, et qui avait de l'or dans ses mains, comme on dit d'habitude. Mais on ne savait pas que ses mains avaient servi à autre chose.
Une certaine intelligence, disent ses voisins, sûrement, mais une intelligence qu'il consacre tout entière à son art de la ruse et de la manipulation. Il n'est pas fou, tous les experts psychiatres le confirment. Il n'est pas non plus sujet à des pulsions incontrôlables, puisque ses meurtres sont programmés. Oui, ils sont préparés, souvent bien à l'avance, puisque Fourniret est capable de creuser des trous pour ensevelir ses victimes avant même de les avoir traquées. En langage judiciaire, ça s'appelle préméditation. Né en 1942 à Sedan, dans un milieu ouvrier, Michel Fourniret n'est pas très loquace sur son enfance. Son père, qui travaille dans la métallurgie, boit beaucoup, il est souvent absent. Fourniret décrit sa mère comme caractérielle. A-t-il été victime d'inceste dans son enfance, par sa mère? Le doute persiste sur ce point. On retrouve le jeune Fourniret au service militaire durant la guerre d'Algérie, dans les commandos de l'air. Là aussi, on ne sait pas trop quel rôle il a joué, ni ce qu'il a vu. Il se tourne ensuite vers les métiers techniques et devient ouvrier, comme son père. Mais à la différence du paternel, il va se passionner pour les échecs et aussi pour la littérature. Michel Fourniret aime citer les auteurs russes ou Albert Camus. En prison, il va écrire de très longues lettres, pas toujours intelligibles, mais truffées de références. En résumé, Fourniret n'est pas un pédophile assassin comme les autres. S'il est travaillé par une quête obsessionnelle de la virginité, d'ailleurs il se voit en défenseur de la pureté, il peut aussi commettre des actes extrêmement violents, sans connotation sexuelle. Il y a chez lui une volonté d'emprise, de domination. C'est un mégalomane, un grand manipulateur aussi, qui, comme aux échecs, veut toujours avoir deux coups d'avance. Une chose est sûre, il est très conscient de sa nocivité. Tiens, un policier belge qui lui demande s'il a travaillé pour Dutroux, Fourniret rétorque que non, je suis pire que Dutroux. Et face au procureur de Charleville-Mézières, qui a noué une sorte de relation de confiance avec lui, il lâche un jour « Vous savez, monsieur le procureur, de mon procès, personne n'en sortira indemne, même pas vous. » L'exceptionnelle perversité de Michel Fourniret transparaît dès les années 80 dans la relation qu'il noue derrière les barreaux avec sa future femme, Monique Olivier. Nous sommes en 1987. Fourniret n'est alors qu'un délinquant sexuel tristement ordinaire. Il purge sa peine à Fleury-Mérogis et passe une petite annonce dans le Pèlerin, l'hebdomadaire catholique, où il dit « prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. Et il se trouve qu'une femme qui habite dans le sud de la France lui répond. Elle a 38 ans, elle est divorcée, elle a deux enfants. Elle s'appelle Monique Olivier. La correspondance tourne très vite à l'histoire d'amour. Tu es quelqu'un de bien, de très bien même, lui dit celle qu'il appelle mon tigre, mon cher Khan. Vous savez, comme dans le livre de la jungle. Mais si un gardien avait pris la peine de lire les lettres interminables du cher Khan en question, il aurait découvert bien autre chose qu'une amourette. Car au détour de certaines phrases, Fourniret évoque la possibilité d'enlèvement, sa quête de virginité, on la retrouve, son obsession et envisage à demi-mot de commettre ses méfaits avec la complicité de sa nouvelle compagne. Une sorte de pacte de sang, de pacte criminel se noue entre ces deux êtres. Complice et complice très active, Monique Olivier va l'être jusqu'à la nausée. Elle va parfois toiletter, préparer les victimes pour les offrir à son mari, oui, comme une offrande. Ces deux-là semblent avoir été fécondés par une sorte de noce barbare. Et là encore, les voisins du couple, et notamment ses témoins de mariage, n'ont rien vu, rien deviné de la personnalité de Monique Olivier, ou si peu. Disons qu'ils ont vu une femme déprimée, rien de plus.
On avait dit qu'elle avait tous les malheurs.
Et puis je sais pas trop si elle n'était pas sous traitement aussi, elle avait dû faire des dépressions et elle était encore un peu sous traitement. Elle devait être certainement les trois quarts du temps un peu...
Elle ne parlait avec personne du tout. C'est bien simple, quand on la voit, cette femme-là, on dirait une femme qui a peur là, d'être en contact avec les autres.
Avec Monique Olivier, sa femme, et puis bientôt son bébé Céline, Michel Fourniret bénéficie non seulement d'une couverture de bon père de famille, mais aussi d'une aide, d'une complice précieuse. Et leur premier enlèvement et meurtre à deux intervient quelques semaines seulement après la sortie de Fourniret de Fleury Mérogis en décembre 1987. Reste l'argent, car il faut bien vivre, se loger, nourrir l'enfant. Le leur a droit au bonheur, c'est le leur, celui des autres c'est autre chose. Michel Fourniret a sa petite idée pour subvenir aux besoins de sa petite famille. En prison, il a sympathisé avec Jean-Pierre Elguarche. Ce compagnon de cellule lui a parlé d'un fameux magot, 50 kilos de lingots et de pièces d'or qui proviendraient du fameux gang des postiches, ces braqueurs qui écumaient les banques dans les années 80. Ça ne se refuse pas.
Fourniret va être libéré avant Elguarche, en octobre 1987. Et dès qu'il sort, la femme de celui-ci demande à Fourniret de l'aider à déterrer le butin des postiches, enfoui dans un cimetière de la région parisienne. Fourniret tue la femme, s'empare du magot et acquiert, entre autres, le château de Sautou, dans les Ardennes. Un château qu'il revendra à la sortie d'Elguarche, par peur des représailles. Fourniret n'est pas seulement un tueur, c'est aussi un escroc.
Le 27 mars 2008, dans une ambiance électrique et un déploiement médiatique exceptionnel, le procès Fourniret s'ouvre à Charleville-Mézières devant la cour d'assises des Ardennes. La foule est chauffée à blanc. À l'extérieur du palais, certains réclament une justice expéditive, voire, pour certains, le retour à la peine de mort. La peine de mort, c'est ce que Fourniret lui-même estime mérité. Oui, il le clame. Il le dessine même. À l'attention du président de la cour, il va faire un croquis. Une sorte d'ascenseur vitré dans lequel il prendrait place. Sur le toit, les familles de ses victimes sauteraient à pieds joints pour faire descendre la cabine juste avant d'arriver sur les pieux qui le transperceraient. Un orchestre, précise le tueur en série, devra jouer un passage de la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie, évidemment. En vérité, Fourniret est partagé entre la volonté de rester au fond de sa cellule et le souci de faire le spectacle, pour tout contrôler. Des dizaines de journalistes de France et venus de l'étranger font le déplacement.
Des travaux d'aménagement ont été réalisés, y compris dans la salle de la cour d'assises. 4 caméras ont été installées afin de retransmettre le procès dans d'autres salles. Le box des accusés a lui été sécurisé. Des vitres à l'épreuve des balles ont été posées. Et face au box des accusés, les bancs des parties civiles, les victimes et les familles des victimes vont être prises en charge par une cellule psychologique, et ce tout au long des 2 mois du procès. La structure géante, dressée sur le parvis du palais de justice, va certes accueillir du public, mais aussi et surtout les quelques 260 journalistes et 70 techniciens accrédités pour le procès, plusieurs dizaines de médias venus d'une dizaine de pays.
Procès peu ordinaire et président de cour d'assises peu ordinaire également. Gilles Latapie, c'est son nom, n'est pas un homme du sérail. La soixantaine, cet ancien spécialiste de relations humaines a fait carrière dans le privé. Il n'est devenu magistrat que depuis une dizaine d'années. Et c'est son premier grand procès sous les projecteurs des médias. courtois, plein d'humour, ce magistrat singulier feint souvent la naïveté pour mieux atteindre son but. Sa grande crainte pour le moment, c'est que Fourniret refuse de sortir de sa cellule et que, comme la loi l'y oblige, il soit amené de force au palais de justice. Dans les jours qui ont précédé le procès, Gilles Latapie a visité son prisonnier à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Celui-ci exposait ses exigences. Il est impératif que les jurés soient arrivés vierges à leur mariage, sinon ils ne pourront pas comprendre ma quête de virginité, de pureté. Et voilà Fourniret qui demande au président de faire signer aux jurés un formulaire. « Je suis resté vierge jusqu'au mariage ». Inutile de dire que le juge laisse dire et passe à autre chose. Mais le président Latapie ressort en se disant que Fourniret ne va pas être un accusé facile. Et le tueur en série va effectivement le prouver dès le début du procès.
Il quitte la prison de Charleville-Mézières, mais s'est contraint et forcé. Michel Fourniret a refusé ce matin d'être extrait de sa cellule. Au deuxième jour de son procès, l'accusé tente une nouvelle fois de contrôler l'audience en vain. Après la lecture des crimes qui lui sont reprochés, il réitère son exigence, un procès à huis clos, où il ne parlera pas. En face, les familles de victimes font bloc, soudées par le même état d'esprit.
Le huis clos, c'est pas notre affaire.
C'est une mascarade. Il essaye de dominer, encore une fois, comme il a dominé ses victimes, il essaye de dominer les familles de victimes. Et j'estime que ce n'est pas normal, et nous n'accepterons jamais cela.
Il est un peu lâche aussi de ne pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de tout ce qu'il a fait.
On espère la vérité. On a des doutes sur le fait qu'elle puisse sortir lors de ce procès. On est obligé de l'espérer.
L'accusé brandit un panneau sur lequel il a écrit « 108 clos bouche cousue ». Sur les bancs de la presse, les journalistes observent ses grosses mains et son regard acier. À côté de lui, Monique Olivier, que certains experts ont décrite comme très intelligente, paraît bien pâlote. Fourniret n'adresse pas un regard à cette bonne femme dont les propos le font gerber, comme il a dit aux inspecteurs. André Fourniret, le frère de Michel, témoigne. À 78 ans, il bouleverse. Il dépeint l'accusé en Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il refuse de renier son frère, mais adresse toute son affection aux familles des victimes. Alors on entend des « merci ». Finalement, c'est Anne, l'un des enfants de Fourniret et Dominique, la fille d'un ami, qui vont arriver à faire parler l'accusé qui, pour la première fois, sanglote. Dominique, peux-tu demander un vrai pardon aux familles ? Fourniret. On ne demande pas pardon pour ce qui est impardonnable. Tout est dit. Le tueur en série accepte finalement de parler, mais le calvaire des parties civiles ne fait que commencer. Les jours qui suivent, Fourniret passe du mutisme à une logorrhée insupportable. Il fait son autoportrait en prédateur cynique et dit « C'est un peu comme un braconnier qui part à la chasse. Il prend un fusil, il sait pas le soir s'il ramènera un faisan ou un lapin. » Au cours des débats, il insulte la défense des parties civiles. « Écoutez, ce n'est pas une loque émotive comme moi qui va se laisser impressionner par un petit avocat de merde. » Nous connaissons tous des manipulateurs, dit l'expert psychiatre Daniel Zaguri. Mais chez Fourniret, il s'agit d'une manière constante d'être au monde. Il glace de bout en bout, même quand il pleure. Il fige, fixe l'autre, transformé en statue de sel. Il nous réduit à perdre notre substance et à occuper la seule place qu'il assigne aux autres, celle de ses obligés, ses dominés, ses écrasés. Alors comment juger Fourniret ? L'issue du procès en soi ne fait aucun doute, bien sûr. L'accusé le premier sait que la perpétuité est au bout du chemin. Mais comment le condamner ? Avec quels mots ? Quelles attentions pour les familles des victimes ? Que ça plaise ou non, c'est un être humain, lance l'un des avocats de Fourniret. L'avocat général, lui, s'embarque sur un autre registre, plutôt animalier. Dans son réquisitoire de 5h30, très critiqué le lendemain dans la presse, il traite les accusés de grosses limaces gluantes, d'araignées, et charge Monique Olivier.
Depuis 5 ans, l'avocat général porte ce dossier à bout de bras. « Je n'en peux plus de ces horreurs », dit Francis Nakbar. Alors ce sont des mots que l'on entend rarement dans la bouche d'un magistrat qui tonne aux assises. Vous êtes des monstres, des fêlés, pauvres malades, à gerber Fourniret, à gerber Monique Olivier. Mais surprise, l'avocat général redistribue les rôles. Il y a le pitoyable petit Fourniret et à côté la sorcière, l'égérie, la muse du crime. Sans elle, dit le magistrat, rien n'aurait été possible. L'avocat de Monique Olivier a l'impression qu'on a changé de procès.
À l'heure du verdict, l'avocat général n'est pas suivi par le jury dans cette distribution des rôles. Le couple est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité réelle pour Fourniret, ce qui est rare en France, perpétuité avec 28 ans de sûreté pour Monique Olivier. Reste une question lancinante et insupportable pour les familles de victimes. Fourniret aurait-il pu être mis hors d'état de nuire plus tôt? Et pour quelle raison, notamment? L'enquête sur le meurtre d'Isabelle Laville en 1987 a-t-elle été bâclée, le dossier classé sans suite? Il est rare qu'un président de cour d'assises avoue qu'il a manqué de courage. C'est pourtant le cas, ici. Je dois avouer que j'ai manqué de courage, a dit dans un livre confession le président Gilles Latapie. J'avais pensé présenter des excuses à la famille Laville au nom de l'institution judiciaire. Pourtant, le moment venu, j'y ai renoncé, me disant que je n'avais pas, moi seul, la surface nécessaire pour ce geste et que les mots que j'aurais pu employer auraient alors semblé dérisoires. Je crois, avec le recul, que j'aurais dû le faire, tout de même.
Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me, down the brain of my river, oh, the fire was searching for a waterway home. Glitter is love. My eyes pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden veil. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost witching, there's a soldering blue line between my eyes. Cut me in quadrants, leave me in the corner.
Sensible aujourd'hui, l'affaire Fourniret. Je vous rappelle, c'est une rediffusion avec, comme d'habitude, un nouvel invité pour un nouveau regard. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Oli Porissantoro. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous venez d'écrire un livre intitulé Le Fils de l'Ogre. C'est une nouvelle enquête sur le tueur en série Michel Fourniret à travers votre rencontre et votre amitié finalement avec Selim. Selim, c'est le fils de Fourniret et de Monique Olivier, aujourd'hui tous les deux en prison. Comment avez-vous rencontré d'abord Selim et pourquoi rouvrir cette enquête?
Si vous voulez, le hasard, le destin ont joué un rôle déterminant en ma faveur. Nous sommes en 2013. Mmh. À l'époque, je ne connais absolument rien de l'affaire Fourniret. Je ne la connais que par de vagues oui-dire, si je puis dire, ou par des coupures de presse. Pour moi, c'est simplement un synonyme de l'horreur absolue, qui a trait évidemment à des crimes pédophiles, mais au même titre que quelqu'un comme Marc Dutroux, Francis Holm ou autre. Et si vous voulez, un jour, je tombe par hasard sur une rediffusion d'un numéro de Faites Entrer l'Accusé, jadis présenté par Christophe Ondelat. Et c'est un numéro qui se termine justement par ces paroles. C'est leur fils, depuis changé de prénom. Il vit aujourd'hui avec les deux fils de Monique Olivier, dans le sud de la France. Donc moi, à ce moment-là, j'ai senti que j'avais une carte à jouer. Parce que vous vous doutez bien que j'ai bondi de mon fauteuil en apprenant les détails de cette sombre affaire, qui ne ressemble en rien aux autres que je viens de citer. Donc j'ai sauté sur l'occasion, si vous voulez, j'ai senti qu'il y avait une carte à jouer, je lui ai écrit. J'ai très vite retrouvé sa nouvelle identité, si vous voulez, je ne m'étais pas trompé. La seule différence, voilà, c'est que mon message restera lettre morte pendant environ un an.
Et au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe-t-il ?
Au bout d'un an, moi je me trouve en ce moment, à ce moment-là, à Genève, en Suisse. Je bondis à nouveau de mon fauteuil, si vous voulez, et je prends la décision de rentrer le plus vite possible dans les Alpes-Maritimes afin de pouvoir le rencontrer.
Pourquoi? Parce qu'entre temps, il vous dit oui. Vous dites pendant un an, j'ai pas de réponse. Mais ouais. Non, il vous envoie une lettre. Qu'est-ce qu'il fait? Un mail?
Il m'envoie un message électronique, pour être exact.
D'accord.
Dans lequel il m'explique être d'accord pour me rencontrer.
Bon. Voilà. Et alors, vous lui dites, parce que j'imagine que c'est un peu compliqué. D'ailleurs, dans votre livre, page 194, vous dites « Visiter Michel Fourniret en prison. Ah, terrible projet que celui-là. Et dont je ne pèse toute la dangerosité que lorsque je suis sur le point de le concrétiser. » Ça veut dire qu'à partir du moment où vous rencontrez le fils, ça vous ouvre la porte de la prison, si je puis dire, pour rencontrer le père, c'est ça?
Pas tout de suite. Pas tout de suite, si vous voulez.
Dites-moi.
Dans un premier temps, je rencontre Selim dans le cadre d'une interview. Mmh. Puisque je sais que c'est une sorte de Graal, si vous voulez. Selim n'avait jamais donné d'interview, donc c'est dans cette optique-là que je l'ai contacté.
D'accord.
Lui offrir la parole pour ensuite vendre cet article à un magazine. Donc cela aboutit à un article exclusif, si vous voulez, dans les colonnes du magazine VSD. Nous étions alors en 2014. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'aime à parler de destin, c'est que le lendemain de notre rencontre, alors que Selim lui-même m'avoue ne plus parler de cette affaire avec personne depuis environ 10 ans, mmh. il reçoit une lettre de Michel Fourniret. À ce moment-là, il est choqué lui-même et il pense que je suis dans la combine, que j'ai quelque chose à voir dans cette affaire-là. Mais ce n'était pas le cas.
C'était le destin. Et qu'est-ce qu'il lui dit Michel Fourniret dans cette lettre?
Il lui parle d'un trésor à faire pâlir tous les banquiers de la planète. Évidemment, c'est une référence au butin du gang des postiches, qu'il a dérobé en 1988 et grâce auquel il s'est acheté un château. Michel Fourniret a mené la vie de château des années durant, grâce à l'or du gang des postiches. C'est ça qui est incroyable. Et Selim, lui, je me retrouve donc en face de Selim, lui-même, qui a vécu dans ce château, qui a connu la vie de château. Sorte de moulinsard de l'horreur, si je puis dire.
Et alors, vous avez rencontré le chef du gang des postiches pour confirmer cette information selon laquelle il aurait récupéré tout ou partie de leur butin?
Si vous voulez, il faut savoir que c'est là une information qui est encore niée par certains des avocats de Michel Fourniret. Beaucoup m'ont dit, mais non, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai rendu visite à André Belaïche, donc le cerveau présumé du gang des postiches.
Ouais.
Les cheveux, ils se sont dressés sur sa tête quand il a compris que je venais le voir pour lui parler d'un certain Michel Fourniret. Mais moi, si vous voulez, ma question était toute simple. J'ai vu le film qui est adapté de son bouquin, quand même, Le film s'appelle Le Dernier Gang, c'est avec Vincent Elbaz.
Oui.
Le film se clôture sur cette scène où nous le voyons sortir de prison. Donc ce personnage qui s'appelle Simon, qui est censé être donc André Belaïche dans sa version filmique, dire quand on est sorti, le magot avait disparu, on s'est tous soupçonnés les uns les autres, et puis voilà, fondu, noir, enchaîné, générique. Et à aucun moment le nom de Fourniret n'est prononcé. Mmh. Je lui ai donc posé la question, ni dans votre livre, ni dans votre film, vous ne dites ce qui s'est passé réellement. Pourquoi? On sait très bien, c'est un secret de Polichinelle aujourd'hui, même si c'est nié encore aujourd'hui par certains avocats pour manque de preuves, mais on la sait la vérité. Et ça m'a été confirmé en prison directement par le principal intéressé. Il m'a d'ailleurs expliqué que c'était là son seul remords, son seul regret. Mmh. Il n'a aucun regret vis-à-vis des petites filles qu'il a tuées. Ça c'est catégorique. Moi il m'a dit je passerai un sale quart d'heure si j'avais André Belaïche en face de moi en ce moment même, c'est certain. Même si il adore rouler des mécaniques, jouer des mécaniques, là à ce moment-là on a très bien senti qu'il avait peur de quelqu'un. Il n'a pas peur de la police, il n'a pas peur des juges, mais il a dit que s'il avait André Belaïche en face de lui, il passerait un sale quart d'heure. Ce sont ses mots. Et il a un seul regret, c'est d'avoir tué Farida Amiche. Farida Amiche qui lui avait indiqué où était enterré le butin. Farida Amiche qui était la compagne de Jean-Pierre Elguarche, celui qui a fauté. Le gangster qui lui a balancé où était enterré le trésor. Celui qui a trahi le gang des postiches.
Alors, donc tout ça, vous l'apprenez ça vous est confirmé par la voix de Fourniret lui-même, puisque vous le rencontrez en prison. Donc je reviens sur cette phrase, quand vous pesez toute la dangerosité qu'il y a à le rencontrer. Comment ça se passe finalement? Comment ça se passe? Quand vous voyez cet homme-là, quel homme voyez-vous? Que vous dit-il? Et que ressentez-vous?
Si vous voulez, quand je vous dis que je ne pesais pas la dangerosité de ce qui était sur le point de se produire, c'est parce que jusqu'au dernier moment, moi-même, je n'y croyais pas. Tout cela était d'une simplicité enfantine, telle que cela semblait irréel.
Ouais.
Moi j'ai fait ma demande, à aucun moment on m'a demandé si j'étais journaliste ou quoi que ce soit, ça a été simplissime, j'étais uniquement un soutien moral de Selim. Et on vit les choses sur le tas, et on passe des portes, on passe des sas, on se fait contrôler, et puis d'un coup on voit surgir L'ogre des Ardennes, et oui, ça fait quelque chose, mais c'est vrai qu'on n'y croit pas. C'est tellement insensé de se retrouver en face d'un tel homme. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment la confrontation. Je suis vraiment allé m'abreuver à la source, offrir la parole au principal intéressé. Pour, si vous voulez, en parallèle, tordre le cou à certains mythes journalistiques. Et il y en a énormément, et c'est
par
ça
exemple,
qui énerve considérablement Selim aujourd'hui.
Ouais. Un exemple de ce que vous dites.
Alors ça, c'est une chose qui a le don de mettre Selim en rogne. C'est le fait que, déjà, on le qualifie d'ogre. Mais si vous voulez, aussi, il y a également le qualificatif de forestier. On tente de nous faire croire que Michel Fourniret était un loup solitaire, quelqu'un qui vivait en vase clos, uniquement avec sa femme, qui fomentait ses crimes uniquement avec elle, qui ne connaissait personne d'autre, qui vivait reclus dans une forêt. C'est faux. Moi, Céline me dit que son père, Michel Fourniret, avait énormément d'amis. Il y avait beaucoup de passages à la maison, il recevait beaucoup de visites. C'est ce que je révèle dans le livre également. Michel Fourniret, à cette époque-là, était membre d'une association basée sur l'entraide, dans laquelle il était placé sous l'autorité d'un maître, au même moment où il commence à tuer, c'est-à-dire l'époque où il habite dans les Yvelines, dans les alentours de Paris. Mmh. Voilà, y a toutes ces choses-là que je dévoile dans le livre, qui sont incluses dans le livre. Il y a même un nom, dont j'invite les gens à aller le découvrir. Tout ça pose des questions. Donc il y a certains mythes, oui. Vous savez, par exemple, quand je me retrouve en face de Michel Fourniret en prison, je lui pose cette question. Vous qui avez été guidé par la Vierge Marie, c'est ce que vous dites quand on vous demande pourquoi vous avez commis tous ces crimes, pourquoi avoir donné un nom coranique à votre fils, à savoir Selim?
Ouais.
Il me dit, mais comment ça la Vierge Marie? Je dis, mais c'est, oui, vous savez, c'est ce qu'il y a écrit de partout dans les journaux. Vos crimes vous auraient été dictés par la Vierge Marie. Vous seriez un catholique invétéré. Mais là, il me dit, mais pas du tout. Je me considère pas du tout comme un catholique et je ne voue pas un culte à la Vierge Marie, c'est faux. Si j'ai donné ce prénom coranique à mon fils, c'était uniquement en hommage à mon co-détenu, à Fleury Mérogis, un braqueur notoire du nom de Selim.
Bah, en même temps, quand des journalistes s'expriment sur une enquête, c'est un peu comme une démarche scientifique. Je veux dire que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle d'hier, c'est des suppléments d'informations qu'on apporte. Et tout ça est normal. Pourquoi s'ériger contre des erreurs qui ont été dites dès lors qu'on peut les corriger en enquêtant au fil du temps, comme vous l'avez fait? Finalement, c'est assez normal. Non,
c'est la base du journalisme, je pense, de vérifier l'information, et je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'aller vérifier l'information à la source.
N'empêche que ça énerve son fils, Selim, qu'on parle d'ogre concernant... Oui. Mais vous mettez quand même comme titre le fils de l'ogre. Pourquoi vous avez mis ce titre-là, alors?
C'est vrai, c'est un point de désaccord que nous avons tous les deux. Moi, je trouve ça normal. Donc, je lui cite toujours le cas d'Al Capone. Je lui explique, si vous voulez, que c'est commun dans la presse de donner des surnoms à des voyous, des gangsters, des tueurs. Al Capone, lui, c'était Scarface, le balafré. Pour moi, c'est normal. C'est un raccourci journalistique, mais je trouve ça toujours intéressant de... Si vous voulez, ça donne un côté romanesque aussi aux affaires, et c'est ça qui plaît aux gens.
Alors, parmi toutes les questions qu'on s'est posées, il y a celle-ci. Dans les années 80, Fourniret a déjà été condamné pour une dizaine d'agressions et viols sur mineurs. Dès cette époque, on connaît sa dangerosité. On va écouter une archive ensemble sur ce point, le point de la dangerosité, qu'on n'a rien fait. Le médecin psychiatre Bardet-Giraudon le reconnaît. Il l'avait examiné au milieu des années 80. On l'écoute.
Sa facilité à accepter sa perversion, si vous voulez, son manque de scrupules et de remords, à ce moment-là, je ne parle pas pour la suite, je n'en sais rien, à ce moment-là, prouvait qu'il était susceptible de recommencer.
Qu'est-ce que ça vous inspire, cette analyse qui doit faire écho à ce à quoi vous avez réfléchi en écrivant le livre, j'imagine?
Si vous voulez, cette affaire est incroyable. Évidemment, on connaissait la dangerosité de Michel Fourniret. Monique Olivier, elle-même, quand elle passe ce pacte diabolique avec lui, elle est au courant de ses antécédents, de son attrait pour les petites filles. Et c'est d'un coup, voilà, il disparaît dans la nature pour continuer ses méfaits tranquillement. C'est ça qui est incroyable. Ce type passe d'une cabane à un château, digne du château de Moulinsart dans Tintin, et tout le monde trouve ça normal. Voilà, ça alerte un petit peu les autorités à ce moment-là, mais on pense plus à un terroriste qu'à un tueur en série.
Et quand on parle c'est de monstre, bah oui, et je reviens à la presse, quand on parle de monstre, alors là, pour le coup, c'est peut-être une erreur, parce que peut-être que ces gens-là, les serial killers, même s'ils ne se ressemblent pas tous, vous l'avez dit d'ailleurs, ils sont différents des autres fourniraient, peut-être qu'ils veulent qu'on les qualifie de monstres, justement, non?
Pour moi, c'est encore plus qu'un monstre, Michel Fourniret. Vous savez, on le qualifie d'assassin pédophile, oui, mais pour moi, il ne ressemble en rien aux autres. Je pense à Dutroux.
Et pourquoi il ressemble à rien? Vous l'avez dit au début, effectivement.
Pour moi, c'est un foudre de guerre. une sorte de génie mafieux. Fourniret, Michel Fourniret a braqué le butin du gang des postiches. Et c'est ça que je trouve ça fascinant, si vous voulez. Mmh. Il y a dans cette affaire une prédisposition romanesque incroyable. C'est-à-dire, si cet homme n'avait pas touché à des enfants, aujourd'hui, il serait peut-être encore dans son château à profiter de ses vieux jours. Au lieu de ça, il est en prison parce que voilà, il a voulu commettre le crime de trop.
Ouais.
Alors, il y a vraiment une prédisposition romanesque. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fasciné. Je pense que je me serais même pas intéressé à l'affaire Fourniret s'il n'y avait pas eu ce détail-là en lien avec le gang des postiches.
Oui, mais je le vois parce que vous en parlez souvent et je comprends, j'entends bien. Alors maintenant, parlons aussi de Monique Olivier, parce que son rôle a été débattu pendant le procès. Alors, l'influence réelle de Monique Olivier, quelle est-elle?
Alors, écoutez, d'abord, je n'en parle pas beaucoup, vous en serez rendu compte à la lecture du bouquin, c'était à la demande de Selim directement. Mmh. Il était d'accord pour reprendre contact avec son père pour les besoins de l'enquête, mais il m'a demandé de laisser ce sujet-là un peu de côté, si vous voulez. Tout ce qu'il m'a donné, c'est une lettre de Monique Olivier que je retranscris dans les pages du Fils de l'Ogre. Pourquoi? Parce que je pense que cette lettre est édifiante. Elle montre sa faculté à manipuler, elle aussi. Vous savez, elle a voulu se faire passer pour quelqu'un de bête, d'influençable au cours du procès. Selim pense lui-même que c'était une stratégie de son avocat. Car pour lui, en aucun cas, sa mère est quelqu'un de naïve, de bête, d'idiote. Lui, il pense qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait de A à Z. Il ne faut pas oublier que lorsqu'elle passe ce pacte avec Michel Fourniret, c'est à la condition unique qu'il tue son ex-mari, André.
Oui, c'est vrai.
Donc elle a toujours eu des intentions. Oui. Et dans la lettre que je retranscris, on voit très bien qu'elle tente de monter Selim contre ses autres fils, qui ne lui parlent plus.
Alors,
craignant que celui-ci ne lui parle plus à son tour.
Justement, parlons de Selim.
Elle a une faculté à la manipulation. C'est indéniable, selon moi.
Très bien. Alors, dans cette famille, donc, j'ose dire, il y a le père, la mère, et puis il y a les enfants, et il y a Selim. Alors évidemment, Selim, c'est un témoin, il apporte des informations, mais c'est aussi et avant tout un jeune homme, fils de parents criminels. Comment voit-il sa vie? Comment s'est-il reconstruit, Selim?
Ce qui lui a permis de passer enfin à autre chose, si je puis dire, pas totalement, mais en partie en tout cas, c'est de pouvoir changer de nom, grâce au Conseil d'État, qui lui a accordé de changer totalement d'identité. Ça, c'était déjà une victoire pour lui. De faire en sorte que quand il va en cours, par exemple, les gens ne sursautent pas en entendant le nom de Fourniret.
Évidemment.
Qui est aujourd'hui un terme générique, si je puis dire.
Mmh. Et
les gens n'étaient pas dupes, quoi.
Et sa sœur, Anne?
Oui. C'est d'ailleurs l'une des choses qui valait vraiment... qui valait vraiment le coup, si vous voulez. Grâce à cette enquête, Selim a repris contact avec sa sœur. C'est ce que je raconte dans un des derniers chapitres du Fils de l'Ogre. Grâce à cette enquête, il a pu reprendre contact avec sa sœur et retrouver sa sœur, dont il n'avait plus de nouvelles, et vice-versa.
Un détail qui n'en est pas un, la présence de Michel Fourniret au procès Ranucci en 1976. D'ailleurs, c'est indiqué sur la quatrième de couverture, donc ça veut dire que c'est quand même important. Racontez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Si vous voulez, nous avons été contactés par un journaliste, dont je tairai le nom, qui était lui-même mandaté par un juge belge, pour nous expliquer, en gros, que la France fermait les portes pour éviter tout débat à ce sujet-là. Il faut savoir que le parquet de Dinan en Belgique a transmis au parquet de Charleville-Mézières en 2006 une photo prise à Aix-en-Provence, au tribunal d'Aix-en-Provence en mars 76, dans laquelle nous pouvons voir quelqu'un qui ressemble fortement à Michel Fourniret. La justice française a balayé ce sujet d'un revers de manche en expliquant que ce n'était pas lui, que des études avaient été menées, que la distance entre les yeux ne correspondait pas, que Michel Fourniret ne portait pas de lunettes à cette époque-là. Pourtant, moi, Michel Fourniret m'explique, si vous voulez, qu'il a passé des vacances au même endroit à cette époque-là, qu'il s'y rendait régulièrement. Donc c'était du côté de Marseille.
Oui.
Et si vous voulez, cette photo-là n'est jamais sortie. La Provence, le magazine La Provence, qui est l'auteur, le détenteur en droit de cette photo, a toujours refusé de la vendre. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je me suis procuré cette photo. J'ai trouvé la piste intéressante. Donc, c'est, vous savez, il y a la fameuse affaire du pullover rouge de Monsieur Perrault. Voilà,
Bien sûr.
Ce n'est pas ma thèse à la base. Donc, si vous voulez, je prends cette photo, je la montre à son fils Selim. Je lui dis, écoute, là, apparemment, il y a des gens qui font en sorte qu'on ne puisse pas la voir. Pourquoi ? Regarde, qu'est-ce que tu vois sur cette photo ? C'est mon père. Ce sont les paroles de Selim. Selim regarde cette photo et explique lui-même confondre cet individu qui n'est censé ne pas être Michel Fourniret avec son père.
Donc,
à ce moment-là, je me dis, il faut que je fasse passer cette photo en prison pour avoir l'avis du principal intéressé quand même. Ce serait intéressant qu'il se confonde lui-même avec un prétendu sosie.
Vous avez conscience quand même qu'à travers vos paroles, on pourrait penser que l'assassin de la petite Marie Dolores, en 74, c'est Fourniret.
Christian Ranucci, qui est d'ailleurs niçois. Ça, je l'ai appris en cours de route.
Oui, il est niçois, absolument. Oui, il vit avec sa mère à Nice.
Niçois comme moi, et c'est justement à Nice que j'ai rencontré Selim et que nous avons relancé toute cette affaire. Je trouve ces coïncidences troublantes.
Troublantes, hein. Bien sûr, vous n'êtes pas sans
savoir.
Bien sûr,
mais si vous voulez, pour répondre à votre question, moi je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Je tiens à insister sur ce fait. Je pense détenir peut-être une parcelle de la vérité qui mérite réflexion. J'appelle les gens à se poser des questions. Pourquoi est-ce que des gens ont fait des pieds et des mains pour que nous ne voyons pas cette photo-là? Il faut savoir d'ailleurs que quand je la transmets à Michel Fourniret par l'entremise de son fils Selim, cette photo est retirée du courrier. Michel Fourniret, quand on le rencontre, Selim lui pose la question. Qu'as-tu pensé de la photo que j'ai retrouvée de toi dans tes jeunes années? Est-ce que ça t'a fait plaisir de la revoir? Michel Fourniret nous explique ne pas avoir vu quelconque photo. Non, je n'ai pas vu de photo. Donc cette photo a été retirée du courrier.
J'entends
bien. J'ai dû trouver un moyen détourné, si vous voulez, pour la faire passer. Jusqu'à ce qu'il m'explique que oui, c'est lui sur la photo. C'est ce que je retranscris dans le livre.
Et vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que pendant l'affaire Ranucci, il fallait un coupable. On était dans une situation dans laquelle, peut-être, que le pouvoir politique a tiré les ficelles de la justice et qu'il fallait absolument un coupable et qu'il y avait Ranucci et que c'était peut-être gênant qu'il y ait un autre coupable. Voilà, vous le savez aussi, hein, donc ça pourrait corroborer votre thèse. On va pas tomber dans le fantasme, mais c'est quand même très intéressant ce que vous nous dites, en tout cas troublant.
Oui, vous savez, le juge Michel lui-même a avoué qu'il s'agissait d'un dossier de merde, entre guillemets.
Olipori Santoro, on va terminer sur une dernière archive. Pendant son procès, pendant tout le début du procès, on l'a dit, Michel Fourniret est resté impassible, cynique. Après 21 jours et le témoignage de plusieurs proches, quand même, et là, ils font en larmes.
Depuis un mois, magistrats et avocats tentent de faire craquer Fourniret, en vain. Et c'est la fille d'un de ses employeurs qui y parvient. « Tu me fais honte pour papa, dis ce que tu as sur le cœur, fais-le pour moi. » Michel Fourniret, secoué, troublé, fond en larmes. « L'orgueilleux que je suis ne te répondra pas, on ne demande pas pardon pour ce qui est impardonnable, consent à dire Fourniret. »
Voilà, je pense que ça vous inspire ce comportement pendant le procès, ça corrobore, j'imagine, tout ce qu'il a été.
Vous savez qu'il a ajouté à ses paroles « si je pouvais parler, je le ferais ». C'est ça qui est intéressant. Il a à la fille de ce catoire, qui était l'un de ses meilleurs amis, l'un de ses mentors.
Bien, merci.
Il a expliqué ne pas pouvoir en dire plus, c'est ça qui est intéressant.
Une toute dernière question, Olipori Santoro. Comment on ressort humainement, personnellement, d'une enquête comme celle-là? Parce que je vois que vous en parlez avec une immense passion, et je peux le comprendre, mais on n'en sort pas indemne de ce genre d'enquête.
Non, on n'en sort pas indemne, je vous le confirme. Ça a été très difficile. Au début, je trouvais ça rigolo. C'était marrant, étant donné que Selim et moi, nous sommes d'abord lancés sur la piste du trésor englouti du gang des Postiches. Donc, nous avons joué aux pirates. Malgré tout, nous avons eu à faire face à certaines révélations qui ont complètement redirigé notre enquête à tous les deux. Ce que l'on a trouvé, ce n'est pas un trésor. Ce sont peut-être des choses qui valent peut-être plus. C'est la vie de petite fille. Ce sont des indices... qui mérite réflexion encore une fois, mais ça, si vous voulez, moi quand je rentre d'Alsace à Nice, que je referme la porte de ma chambre, que tout remonte à la surface, c'est vrai que ça a été un énorme choc. J'en ai eu les larmes aux yeux, je vous le cache pas.
Pourquoi
c'était terrible de voir un homme qui mime comment il brisait les nuques de ses enfants jusqu'au claque final. C'était terrible de voir cet homme sourire et être fier de ce qu'il a fait.
Merci, Olipori Santoro, pour votre témoignage. Je rappelle le titre de votre livre, Le Fils de l'Ogre. Et puis en bandeau, comme le sous-titre toujours intéressant, Révélation inédite de Selim, le fils des tueurs, en série Michel Fourniret et Monique Olivier. C'est chez Max Milo. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le cas Fourniret, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires, bien sûr. Merci également à Pierre Faucillon qui était à la technique aujourd'hui.